Alpe 1, l'invité de la rédaction.
Avec nous aujourd'hui, Joël Giraud, député maire de l'Argentière et vice-président de la région PACA. Joël Giraud, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, comme chaque jour, Maxime Petit. Bonjour Maxime.
Oui, bonjour. Alors les élections cantonales, Joël Giraud, sont au cœur de l'actualité. Les militants socialistes vont devoir se prononcer dans les Alpes du Sud ce soir sur leur candidat. On s'est renseigné, on sait que sur le canton de l'Argentière, la place est toujours libre. C'est toujours possible pour vous si vous voulez vous présenter. Est-ce que vous allez finalement saisir cette occasion?
Écoutez, déjà, puisqu'on parle de cantonal, moi je voudrais déjà rendre un hommage à Robert Blache, parce que Robert Blache est un homme dont le caractère républicain a quand même marqué le département. Et je dois dire que faisant quand même pas mal de campagnes électorales et n'étant pas dans son camp politique, j'ai constaté qu'il était toujours présent à chacun des meetings que j'organisais. Et je dois dire qu'au-delà de la politique, le caractère républicain des élus, c'est quand même ce qui est le plus important. Donc voilà, je voulais avant tout dire quelques mots pour Robert Blache et pour sa famille. Et puis évidemment, je sais que c'est le sujet brûle les lèvres, mais vous n'allez pas avoir de scoop aujourd'hui, parce que je ne vais rien vous annoncer. Que se passe-t-il en réalité? Depuis déjà un certain temps, un certain nombre de conseillers généraux, socialistes, radicaux, mais également des conseillers généraux indépendants, il y en a, m'ont demandé à la fois d'être candidat et de briguer la présidence du conseil général.
C'est-à-dire, on est venu vous chercher, hein,
c'est ce donc, vous expliquez. Oui, non, mais clairement. Alors, j'ai trouvé que le challenge était intéressant. Il est intéressant parce que je trouve que ce département est un département qui n'en finit plus de ne plus avancer. Et parce qu'il collabore très mal avec ses partenaires, que ce soit l'État, la région, il y a un certain nombre de financements publics. Moi, si j'étais président d'un conseil général, suite aux annonces qui ont été faites, par exemple sur les enclavements routiers et les enclavements ferroviaires, j'aurais pris immédiatement mon bâton de pèlerin avec le président de la région.
Un message à Jean-Yves Dussert
à politique. Oui, non, mais tout à fait, pour essayer de faire en sorte qu'on sorte un peu de l'ornière.
Donc, vous trouvez ça intéressant? Qu'un pas entre trouver intéressant le sujet et une candidature, c'est un pas que vous n'avez pas encore franchi.
J'ai pas encore franchi parce que les conditions à l'heure actuelle ne sont pas encore complètement mûres.
Qu'est-ce qui vous freine?
Moi, ce qui me freine, je vous l'ai dit très clairement, c'est-à-dire que moi je propose mes services pour assumer un leadership qui ferait que la gauche puisse s'installer de manière durable dans ce département. J'ai bien dit durable.
Clairement,
c'est-à-dire
vous
un petit
souhaitez...
peu ce que j'ai fait au niveau des législatives, si je peux me permettre sans vouloir faire un péché d'orgueil. Mais je pense qu'il faut une nouvelle dynamique, je pense qu'il faut effectivement avoir une méthode un peu plus moderne de gouvernance, et effectivement, j'ai proposé mes services. Bon, à partir de là, il appartient à l'ensemble des partis de gauche de se déterminer. Ils ne se sont pas encore déterminés ni au plan local, ni au plan national sur la problématique des cantonales, donc moi je lis ma candidature effectivement sur le canton de l'Argentière à cette opportunité ou cette éventualité de présidence du conseil général pour mener un combat, je vous rappelle, qui n'est pas gagné d'avance non plus, et où bon, je prendrais quand même un certain nombre de risques.
Peut-être vous freinez une dynamique de campagne qui pourrait être plus forte.
Écoutez,
si vous étiez allié aux côtés des socialistes.
Je crois que les électeurs, en voyant qu'on s'agite autant pour les cantonales plus de 6 mois à l'avance, peuvent être aussi un petit peu bassinés par tout ça.
Mais votre
donc,
position
je crois
est
que
ferme.
L'important, c'est d'avoir un projet.
C'est aussi les partis qui fixent les dates, puisque les militants socialistes sont appelés à se prononcer ce soir.
Et les militants radicaux de gauche aussi, donc c'est bien, vous voyez, on fait ça ensemble, mais dans des locaux séparés. Mais on peut très bien être dans des locaux séparés et puis se marier ou se paxer après, hein, donc ça ne pose pas de problème.
Joël Giraud, clairement, vous l'aviez de toute façon dit depuis plusieurs semaines, je partirai si j'ai le siège du président du Conseil général, ce que refuse le PS. Alors, y a-t-il un compromis?
Oh, je pense qu'effectivement, il y a encore des discussions.
Le
terme de compromis, c'est sur la formation globale d'un exécutif départemental. Donc ça, les compromis, tout est ouvert là-dessus. Mais ils le savent très bien. Mais je constate d'ailleurs que la façon dont le Parti Socialiste gère cette problématique aujourd'hui n'est pas une façon, je dirais, guerrière de le gérer. Et nous non plus.
Ça se joue ici ou à Paris, ces discussions?
Ça se jouera forcément sur les
à
deux
Paris.
Plans, je veux dire, ça se jouera forcément sur les deux plans. Il faut qu'il y ait une acceptabilité locale et qu'ensuite il y ait une onction nationale. Et ça peut être une onction nationale avant une acceptabilité locale, mais il faut quand même que les choses puissent se faire avec des militants qui, eux, soutiennent des partis politiques depuis déjà quelques années et sont à la base même, je dirais, du militantisme en France.
Ça veut dire que la fédération PS du 05 devra accepter la décision de Paris?
J'ai jamais dit un truc pareil. Je vais parler d'acceptabilité locale.
Dans combien de jours vous pensez que ça sera négocié?
Oh, vous savez, moi, j'étais plutôt sur la première quinzaine d'octobre, mais les calendriers, il peut leur arriver de traîner un petit peu en longueur. Donc, nous verrons bien. Vous savez, vous avez remarqué que à droite, il s'est passé des choses encore plus, je dirais, étonnantes entre les investitures UMP, Dussérien. Je soupçonne des investitures de type Jean-Michel Arnaud derrière certaines investitures. Donc, je pense que c'est encore plus compliqué puisqu'il y a trois versions peut-être.
Joël Giraud, un autre sujet que vous connaissez bien, le désenclavement et notamment, Maxime, le tunnel sous le Mont Genèvre qui n'a pas été inscrit au schéma national des infrastructures de transport.
Voilà, l'avant-projet qui a été publié cet été. Est-ce que ça vous a surpris le fait que le tunnel ne soit pas inscrit au SNIT, comme on l'appelle ?
Bah écoutez, oui, ça m'a surpris parce que lors d'une question orale à l'Assemblée nationale, Dominique Bussereau m'a indiqué que le tunnel ferroviaire sous le Mont Genèvre serait une infrastructure issue, sur la cartographie, issue du Grenelle de l'environnement. Alors c'est vrai que j'ai été surpris. Autant je n'ai pas été surpris par la 51 et que je savais à peu près ce qui allait se décider sachant de la 51. Bon, autant sur le tunnel sous le Mont Genèvre, ayant un engagement ministériel, c'est vrai que ça m'a beaucoup surpris. Donc nous sommes allés avec Jean-Yves Petit, qui est le vice-président chargé des transports
à la région.
Nous sommes allés voir le cabinet de Dominique Bussereau où nous avons réexpliqué la problématique. Le directeur adjoint du cabinet me semble d'ailleurs plutôt favorable à une inscription, alors soit sous forme d'une fiche annexe parce qu'ils veulent une carte des infrastructures internationales.
Ça pourrait être rajouté
en
fait,
Paris.
Hein, c'est ça.
Ça pourrait être tout à fait rajouté. Donc bon.
Et quand est-ce qu'on
alors,
va le savoir?
Il y a encore, il y a un débat ensuite parlementaire, hein, donc tout ça va prendre un certain temps. Je pense qu'il y a un remaniement ministériel dans les jours qui viennent aussi. Bon, gardons notre calme. Il y a des engagements. Je crois que ce que les ministères n'ont pas très bien compris, parce que finalement, on a voté un Grenelle de l'environnement et ils n'en ont pas pris toutes les conséquences en marche et surtout en train, puisque les conséquences ferroviaires étaient notamment qu'il devait y avoir une carte des infrastructures interrégionales issue du Grenelle de l'environnement. Et cette cartographie, tout le monde l'a oubliée, parce qu'en France, on aime bien, vous savez, les ingénieurs des ponts, X-Ponts, aiment bien avoir des grands, grands projets. Donc le Lyon-Turin, ça fait bien sur une carte. Le Codicil du Mont-Genèvre, ça fait moins bien. Et je crois que c'est plutôt une question de culture administrative qu'une question de déni.
En tout cas, les études, hein, l'étude a été lancée, hein, vous l'aviez présentée, mais des études, il y en a eu d'autres. Pourquoi celle-ci
Tout simplement, alors cette étude, elle est intéressante parce que je vous rappelle que dans toute procédure en France, il y a un débat public. Et il faut faire en sorte que les études soient conformes, parce que c'est très normé en France, au débat public. Donc tout simplement, cette étude, elle a pour but de faire le point sur tout ce qui a effectivement existé, pour ne pas réinventer l'eau chaude, pour voir là où sont les études complémentaires nécessaires, de façon à formater un dossier en vue du débat public. Donc on est franchement sur des choses qui sont j'allais dire tout à fait normal s'agissant d'un débat public qui doit avoir lieu. Et d'ailleurs, j'attends du gouvernement qu'au-delà de l'inscription sur le SNIT, il s'engage également sur le débat public, ce qui est encore plus important.
Toujours sur le désenclavement, durant la campagne des régionales aux côtés de Michel Vauzelle, vous défendiez un projet de barreau autoroutier du côté à l'est de Gap, hein, pour désenclaver les Alpes du Sud et même la région PACA. Il en est où ce projet aujourd'hui?
Écoutez, la première phase a été mise en place par le gouvernement qui a fait savoir que la 51 était abandonné sur l'autel d'un pragmatisme économique, d'autres diront sur l'autel de l'environnement. Enfin, toujours est-il que c'est abandonné. Bon, abandonné, ça veut dire qu'il faut trouver des alternatives. Effectivement, j'avais défendu avec Michel Vauzelle à l'époque que le contournement de Gap par les vallées de l'Avance se fasse sous le biais d'une concession autoroutière, c'est-à-dire quelque chose qui est payé par le privé, mais à gabarit routier pour préserver l'environnement de l'Avance et créer un itinéraire fluide. Vous voyez bien que la rocade de Gap, telle qu'elle va être construite, est moins une rocade que quelque chose qui est plutôt un boulevard urbain de contournement, donc quelque chose qui ne permet pas des transits importants.
Mais la rocade de Gap est en marche, alors que ce projet d'infrastructure
n'est pas sur les rails. La rocade de
Gap
est en marche, disons que son barreau entre Vennes et la route de Grenoble est en marche, mais il ne résoudra pas les problèmes de transit entre Grenoble, Gap et Sisteron, et surtout il ne résoudra pas les problèmes de transit entre Marseille et Briançon, ou entre Marseille et le Champsaur, et les stations de ski du Champsaur. Donc
autre
je suis
projet,
favorable
alors
à ce projet depuis le début, parce que je sais que c'est réaliste du point de vue économique, on arrive à avoir des financements privés. C'est un gabarit routier, je le répète, avec une troisième voie dans les montées, qui existe déjà entre Saint-Michel-de-Mont et le tunnel du Fréjus, et c'est une concession autoroutière, même si c'est un gabarit routier. Et ensuite, il nous faut un plan de modernisation de l'itinéraire de la Nationale 85 qui soit conséquent. Regardez la différence qu'il y a entre la Nationale 85, Gap-Grenoble, et la Nationale 94, Gap-Briançon. Il y en a une...
Ça, c'est prévu par le gouvernement au SNIT, justement.
Ah ben oui, tout à fait. Et moi, je constate une chose, c'est que la Nationale 94 progresse, les déviations se font petit à petit, alors plus lentement qu'avant, c'est vrai, parce qu'il y a moins de ronds, mais elles se font quand même. Le fait d'avoir pendant 30 ans dit « c'est l'autoroute ou rien » fait que des choses comme le contournement de la Mure, le contournement de Corps, mais également le traitement des zones de glissement dans les Hautes-Alpes et dans l'Isère, et la mise en place d'une troisième voie pour monter à Bayard, ont été complètement abandonnées.
Mais vous n'avez pas répondu, quand est-ce qu'on pourra voir un début d'étude, par exemple, pour chaînon manquant, entre guillemets, dans la vallée de l'Avent, ce baroto.
Là encore, et ça va vous faire plaisir, si j'étais président du conseil général, je prendrais le président du conseil régional par la main, et on irait négocier tous ensemble, avec nos homologues de Rhône-Alpes et de l'Isère, un véritable projet qui soit une liaison rapide et sûre entre la Saulce et Grenoble via l'Est de Gap.
Joël Giraud, vous êtes vice-président de la région PACA. On attend beaucoup, Jérémy, des financements régionaux, notamment du côté du Gapençais.
Et oui, alors, réflexion sur ce stade de glace, Joël Giraud. 4 octobre, début des travaux, en toute logique, c'est ce qu'a assuré le maire de Gap, Roger Didier. Qu'est-ce que vous pensez tout d'abord de ce stade de glace? Et bien sûr, est-ce que les crédits vont suivre?
Voilà, un dossier a été déposé normalement au conseil régional.
Oui, tout à fait. Ce dossier a été déposé au mois de juin, c'est une réalité. Il a été déposé avec une demande de financement à la région qui est extrêmement importante, qui est de 2 600 000 euros. Sur
trop
un projet
important.
Qui est par rapport aux possibilités financières de la région, je le crains important. En effet, la situation, vous la connaissez. Je veux dire, on a un problème à la région qui est un problème de moyens financiers compte tenu du fait qu'on a une réduction des moyens que nous alloue l'État. Bon, là-dessus, il nous arrive un certain nombre de choses, et notamment dans le domaine des sports. Je rappelle que les sports, c'est des compétences des conseils généraux et pas des conseils régionaux.
C'est-à-dire que le maire Roger Didier serait trop gourmand sur ce type d'aide.
Écoutez, moi, il est trop gourmand. C'est surtout que, moi, je vais vous dire franchement mon sentiment. J'aurais un projet en tant que maire. Déjà, je ne démarrerai jamais les travaux sans m'être assuré du financement. J'aurai un projet de 13 millions d'euros à l'heure actuelle. Je ferai un partenariat public-privé parce qu'il y a des concessionnaires privés qui sont prêts à s'investir dans ce genre d'équipement sportif. Et ensuite, il y a même des sociétés anonymes sportives qui vont permettre de gérer l'équipement. Donc, je ferai appel au privé. Vous voyez, c'est le type de gauche qui vous dit que je veux faire du partenariat avec le privé, mais c'est souvent le cas aussi. Donc, ça diminuerait la note pour la commune de Gap et pour les cofinanceurs. Et si j'étais la région, je demanderais aussi, avec la ville de Gap, outre cette implication du privé, eh bien, tout simplement que l'on arrive à quelque chose qui soit un vrai projet sur la ville de Gap et qui soit à ce moment-là finançable. Le stade de glace actuel, dans les conditions actuelles, entièrement public, c'est pas possible.
Sur la rocade de Gap, un dernier mot, la délibération qui devait acter le financement régional a été retirée par Michel Vauzelle lors de la séance plénière, notamment pour faire suite à certains gels financiers de l'État. Ça en est où aujourd'hui? Quand est-ce qu'on va retrouver cette délibération? Un tiers des financements sont prévus pour la première tranche des travaux par la région.
Tous les contrats de plan, sauf le contrat particulier du massif, ont été retirés de l'ensemble des délibérations. Donc, c'est pas spécialement la rocade de Gap, c'est l'ensemble du plan départemental de modernisation des itinéraires et dans tous les départements. Et nous allons le remettre en œuvre dès lors que l'État aura accepté de négocier, mais c'est en cours. Le contrat de plan à mi-parcours, qu'il soit le contrat de plan général ou le contrat de plan routier. Et à partir de là, effectivement, ce sont les opérations de solidarité qui seront les premières débloquées. Les opérations de solidarité, elles sont plutôt dans les Alpes d'Haute-Provence et dans les Hautes-Alpes que dans les Alpes-Maritimes.
Merci Joël Giraud, on l'a compris. Donc la région qui va apporter son soutien au projet du département haut-alpin. Joël Giraud, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député maire de l'Argentière et vice-président de la région PACA.
Retrouvez l'invité de la rédaction en podcast sur alpe1.com.